Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés aujourd'hui pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro. Bonjour Guillaume. Et Adrien Gindre de TF1-LCI. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous le savez, cette émission est en direct et vous pouvez donc réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Le Grand Jury. Et Marie-Pierre Haddad nous rejoindra en fin d'émission pour poser vos questions à la ministre. Alors Agnès Pannier-Runacher, vous êtes, dit-on, une valeur montante en Macronie. Secrétaire d'État dans le dernier gouvernement, vous avez gravi un échelon en devenant en juillet dernier ministre délégué à l'industrie et donc à la réindustrialisation de la France, érigée en priorité par Emmanuel Macron. Louis Legrand, HEC, l'ENA, CV impressionnant, et ceux qui vous ont croisé louent votre souplesse d'esprit, alliée d'ailleurs à une souplesse du corps, puisque danseuse hyperlaxe, vous savez faire le grand écart sans échauffement, on le lit dans tous vos portraits dans la presse. Grand écart que vous avez aussi accompli dans votre parcours professionnel, en passant du public au privé, et notamment par Faurecia, un équipementier automobile, pas que pour le meilleur d'ailleurs. En effet, vous y avez découvert l'hyper-précarité des salariés intérimaires qui servent de variable d'ajustement virée du jour au lendemain. Je me suis vu faire des choses d'une brutalité absolue, avez-vous même reconnu. Une pratique pas forcément en phase avec vos convictions de femme de gauche, c'est ainsi en tout cas que vous vous présentez habituellement. Qu'en est-il aujourd'hui quand beaucoup voient en Emmanuel Macron le meilleur étendard d'une droite sans leader naturel. Mais surtout cet aveu sur la brutalité du monde du travail vous aidera-t-il dans le sauvetage de l'usine de pneus Bridgestone qui a fait l'actualité de cette semaine? Et bien sûr, c'est le premier sujet que nous abordons. La question vous est posée par Guillaume Roquette.
Oui, l'État considère comme inadmissible la fermeture de cette usine à Béthune, mais malheureusement, ce n'est pas du tout la première usine de pneumatiques qui ferme. On se souvient de Continental, de Goodyear. Peut-être parce qu'on ne peut plus produire des pneumatiques en France, parce que nous sommes trop chers.
Alors Michelin, vous direz qu'on peut continuer à produire des pneumatiques en France, hein, mais qu'effectivement, il faut être les meilleurs pour produire les meilleures pneumatiques
et
pour pouvoir trouver son marché. Ce qui est inadmissible sur le sujet de Bridgestone, c'est qu'on savait que l'usine était en perte de vitesse et que nous invitions la direction de Bridgestone à la table de négociation pour justement regarder comment on pouvait redonner de la productivité, de la compétitivité à ce site. C'est de ne pas avoir finalement ouvert la discussion en amont de cette annonce brutale. Et moi, je veux aussi penser aux 863 salariés qui sont rentrés mercredi soir chez eux et qui ont annoncé à leur famille, à leur conjoint, l'usine va fermer,
justement.
Je vais perdre mon job et je ne sais pas ce que je vais devenir parce que c'est la crise en ce moment. Et c'est pour ça que nous avons mis la pression très fortement et avec l'ensemble des élus locaux. Et je veux remercier Marguerite Després-Audebert qui aujourd'hui qui est députée de la circonscription et qui incarne cette alliance sacrée de l'ensemble des élus locaux pour faire bouger le dossier. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que les salariés, les organisations syndicales ont signé un accord de méthode vendredi qui d'abord donne 5 mois à la discussion et qui réouvre des scénarios alternatifs à la fermeture de l'usine.
Attendez, on comprend bien ces scénarios justement, oui. Agnès Pannier-Runacher. Quand on dit scénario, on est en train de se dire comment fait-on pour que le site persiste avec le même nombre de salariés ou comment fait-on pour que ces salariés aient un autre avenir professionnel, des reclassements ailleurs? Qu'est-ce qu'on est en train d'examiner?
On est en train d'examiner toutes les couleurs entre les deux scénarios que vous manifestez. C'est-à-dire qu'on peut effectivement déjà se poser la question d'une usine de pneus à Béthune. Comment fait-on pour qu'elle soit compétitive au plan européen et au plan mondial? C'est la première question. Et vous pouvez changer de gamme. Je crois que tout le monde a compris que les pneus qui sont fabriqués dans cette usine sont des pneus à faible valeur ajoutée pour les véhicules des particuliers, sans qualité particulière, et qui du coup ont pris de plein fouet la concurrence mondiale. Mais vous avez d'autres usines, celle de Bari, par exemple chez Bridgestone, qui est arrivée à un accord où il y a eu un réinvestissement de 40%. 40 millions, dont 12 millions d'euros pris en charge par la puissance publique pour redonner un avenir à l'usine. Et au passage, il y a eu une restructuration. Donc vous voyez, les scénarios sont ouverts. Et de toute façon, dans ces dossiers-là, comme on l'a fait dans plein d'autres dossiers, parce que moi je veux parler de ce qu'on fait à Arc, on a sauvé 4000 salariés.
On va y venir. Agnès Pannier, revenons quand même sur ce dossier-là. Vous nous parlez d'un accord de méthode. C'est quoi exactement cet accord de méthode? Par qui a-t-il été signé et qu'est-ce qu'il prévoit exactement?
Ce que je vous ai indiqué, il est signé par les représentants du personnel et par la direction.
Par la direction. Donc ça veut dire que la direction est en train de s'engager dans un processus de maintien de l'emploi, dans un processus de maintien de l'entreprise? On ne comprend pas trop.
La direction est en train de s'engager dans un processus de négociation. De négociation.
C'était pas acquis.
Non, puisque le scénario principal qui était posé sur la table, c'était la fermeture.
D'accord. Donc
de dire, je réouvre la possibilité de regarder des scénarios alternatifs, premier point, et de dire, je donne un temps à la discussion qui soit compatible avec l'examen professionnel et sérieux de ces scénarios alternatifs, c'est rendre cette discussion crédible. S'ils avaient dit, on a 2 mois pour trouver une solution, tout le monde aurait souri en disant, c'est pas possible.
Mais donc,
5 mois, ça rend les choses possibles. Et nous allons venir en appui des salariés pour rendre cette discussion la plus professionnelle et efficace possible.
Mais donc, Agnès Pannier-Runacher, il n'y a rien à attendre de la réunion de demain. Ce que vous nous dites, c'est que maintenant, la prochaine échéance, c'est dans 5 mois, au terme de ces discussions.
Non, la prochaine échéance, c'est demain, après-demain, après-après-demain. Ce type de dossier, on les gagne en travaillant chaque jour et en faisant avancer les sujets. L'annonce a été faite mercredi. Vendredi, vous avez un accord de méthode. Lundi, nous serons sur le terrain avec Elisabeth Borne pour voir tout le monde. Les élus locaux, la direction locale. Là, nous allons parler à la direction européenne. Nous voulons également parler sous-traitance, parce qu'il y a des sujets de sous-traitance à Béthune.
Oui.
Nous voulons parler enjeux pour l'emploi local. Et donc, c'est tous ces sujets qu'on va aborder pour pouvoir avancer main dans la main avec les élus locaux.
Agnès Pannier-Runacher, est-ce que si jamais il n'y a pas d'accord, vous demandez à l'entreprise de rembourser ce que l'État français lui a déjà donné via le CICE, c'est-à-dire 1 800 000 euros? C'est en tout cas ce que réclame Marine Le Pen, par exemple.
Alors, c'est 1,8 million d'euros. Ils sont dus au titre de l'exercice 2017. D'accord. Moi, je rappelle que c'est ce gouvernement qui a mis fin au CICE. C'est ce gouvernement qui a mis fin au CICE.
Il avait mis en place
pour avoir un système beaucoup plus efficace qui soit directement lié à la présence des salariés dans l'usine, c'est-à-dire une baisse de charge. Bon. Et effectivement, cette baisse de charge, au niveau de rémunération auquel sont les salariés de Bridgestone, leur permet de payer un peu plus de charges, mais pas beaucoup plus, que les salariés allemands ou les salariés italiens. Donc, ça permet de remettre
pas
complètement à niveau.
Vous ne leur demanderez pas ce remboursement?
Non, parce que je pense que ce n'est pas le sujet du moment. Et je veux revenir sur le sujet des aides, parce que c'est un sujet qui est, et je le comprends complètement, nous, lorsque nous donnons des aides particulières, nous demandons des contreparties. Je veux qu'on soit très clair sur ce sujet-là. Quand c'est un investissement dans l'usine, de tel endroit, à tel moment, pour faire telle chose. Ce n'est pas de l'argent, ce ne sont pas des chèques en blanc. Et s'agissant du chômage partiel, parce que c'est important de le dire aussi, le chômage partiel, nous l'avons fait pour un salarié du privé sur 2. Donc, à Bridgestone, il y a eu du chômage partiel. Et moi, je pense que c'est une très bonne décision de l'État d'avoir permis à un salarié sur 2 de conserver leur job à un moment où nous étions au pic de la crise sanitaire.
Guillaume Roquette.
En mai 2019, la direction de l'usine de Bridgestone de Béthune a proposé aux salariés de passer de 32 à 34 heures hebdomadaires de travail. Les salariés ont refusé par référendum. Est-ce qu'ils ont eu tort? La députée de la circonscription qui est présente dans ce studio a parlé à l'époque d'inconscience.
Je crois que c'est surtout l'illustration de la mauvaise qualité du dialogue social dans l'entreprise. En face de cet effort qui a été demandé aux salariés, il y avait un investissement d'un peu moins de 10 millions d'euros. Cet investissement, il n'était pas suffisant pour repositionner l'entreprise sur une trajectoire de croissance et de compétitivité. Néanmoins, vu de la direction, c'était un pas qui était fait en avant et la demande qu'ils faisaient aux salariés leur paraissait équilibrée. Vu du côté des salariés, ils avaient le sentiment d'abandonner quelque chose contre un investissement qui ne permettait pas à l'entreprise de retrouver sa dynamique.
Donc, c'était justifié.
C'est donc très exactement ce que nous ne voulons pas. Le dialogue social, il est essentiel. Il doit être fondé sur la confiance. Et c'est lorsque vous rétablissez la confiance que vous pouvez trouver les meilleures solutions.
Est-ce qu'in fine, le gouvernement pourrait entrer au capital de l'entreprise si c'était nécessaire pour la sauver ?
Alors ça, c'est une question qui revient souvent. C'est-à-dire que les gens imaginent que sous prétexte qu'on devient actionnaire, les carnets de commandes immédiatement reprennent de la couleur. Je suis désolée, mais dans un projet d'entreprise, le premier sujet, c'est d'avoir des clients qui vous achètent vos marchandises et qui les payent plus cher que le coût où vous les produisez. Et c'est exactement le problème aujourd'hui de Bridgestone. Donc, bien sûr, une technicalité peut être à un moment de rentrer au capital, et ça nous est arrivé de le faire.
Oui.
Mais c'est une technicalité, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est d'avoir un projet industriel qui tienne de la route, avec en face des emplois dont on puisse dire les yeux dans les yeux aux gens qui les ont.
L'État ne peut pas tout. Et ne peut pas rentrer au capital forcément d'entreprise comme
celle-ci. C'est pas qu'il peut pas tout, ça c'est pas le sujet. C'est que la solution qui est souvent avancée comme étant la façon de sauver une entreprise, de dire on rentre au capital, est une fausse solution. Ça ne résout rien, ça ne donne pas du travail aux salariés et ça ne permet pas de prendre des commandes supplémentaires. L'État n'est pas un industriel, je crois que tout le monde le sait.
Adrien Gindre.
Alors en revanche, l'État aide des entreprises. Oui. Vous avez dit à l'instant que vous ne souhaitiez pas que Bridgestone rembourse l'argent obtenu grâce au CICE. En revanche, est-ce que vous êtes favorable à l'idée proposée par certains, dont Laurent Berger pour la CFDT, que le CSE, le Comité Social et Économique des Entreprises, dans lequel siègent des représentants des salariés, puisse avoir un droit de regard sur l'utilisation de ces aides de l'État ?
Je crois que le dialogue social est très important dans l'entreprise et que le sujet de la manière dont les entreprises vont se saisir du plan de relance est un bel objet de dialogue social, est un bel objet de discussion en CSE. C'est d'autant plus un bel objet que pour transformer une entreprise ou pour lui redonner de la compétitivité, il va falloir convaincre tout le monde et utiliser tous les leviers. Lorsque nous accompagnons les entreprises, je veux rappeler qu'on a 35 milliards d'euros que nous mettons sur la table dans le plan de relance, pas comme chèque en blanc, mais comme élément de transformation des entreprises. En utilisant l'investissement, on va aider les entreprises à se moderniser, mais également en utilisant le levier des compétences. On va aider les salariés de l'entreprise à acquérir de nouvelles compétences.
Est-ce que vous souhaitez que le CSE soit décisionnaire sur l'utilisation qui est faite de toutes ces sommes ?
Mais là, il y a une différence entre avoir un dialogue social
et
faire du CSE l'endroit où on a une décision qui pourrait retarder le moment où on accompagne l'entreprise.
Donc, en faire un organe décisionnaire,
donc,
c'est non.
Moi, je rejoins la proposition de Bruno Le Maire qui a dit on doit avoir des contreparties, on doit avoir une discussion dans les entreprises et au niveau de chaque filière, et il faut probablement mettre en place une charte avec des contreparties au niveau des entreprises.
Mais non à la proposition de Laurent Berger telle quelle sur le CSE.
Guillaume Roquette.
Vous nous avez dit il y a quelques instants que l'État n'était pas un industriel. Et pourtant, l'État a encore des participations dans un certain nombre de grands groupes industriels. Alors, est-ce que ça veut dire que, selon vous, il devrait les vendre ?
Alors, pas du tout. Vous savez qu'il y a une doctrine de l'actionnaire étatique qui est très claire, c'est-à-dire que nous avons vocation à conserver des participations dans des entreprises qui, pour une raison, soit qui participent, je dirais, d'un enjeu stratégique important. C'est le cas, par exemple, la SNCF, c'est un sujet de service public. La RATP, c'est un sujet de service public. Les industries de défense, c'est un sujet de souveraineté. Et parce que j'imagine que la question peut se poser aussi sur l'automobile. Aujourd'hui, notre présence au capital de ces entreprises est utile pour notre pays. Et donc, nous n'avons pas vocation à varier. En revanche, lorsque je dis que nous ne sommes pas des industriels, c'est que nous nous appuyons sur des équipes d'industriels. Et lorsqu'on dit qu'il faut prendre le contrôle de telle ou telle entreprise, je veux rappeler que nous ne sommes pas majoritaires, ni chez Renault, ni chez Air France, etc. Il y a des équipes de professionnels qui sont à la manœuvre pour porter le projet stratégique de ces entreprises. Et donc, dire que l'actionnariat étatique ou la nationalisation résout tout, c'est encore une fois une réponse paresseuse à des problèmes industriels qui appellent au contraire de se pencher dans le détail ce que nous faisons.
Donc il n'y aura aucune nationalisation, même pour sauver une entreprise, d'ici la fin du quinquennat. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'on commence, et je vais le répéter en boucle si c'est besoin, il faut avoir d'abord un projet industriel et une entreprise qui fonctionne. Et si on a besoin, pour obtenir les financements, pour obtenir des actionnaires, pour avoir la bonne équipe dirigeante à un moment de faire ce mouvement-là, on ne l'exclut pas.
Mais
on ne considère pas que c'est la mesure qui résout tout. C'est vraiment une mesure technique
donc
de second
rang. Donc nationalisation provisoire, c'est possible.
Ça a déjà été fait, et vous le savez très bien, et ça a permis de remettre certaines entreprises sur les rails. Mais ne sortons pas cette mesure comme étant la réponse à tout. C'est vraiment la dernière question qu'on peut se poser.
Vous êtes un secteur, l'industrie, enfin vous occupez d'un secteur qui est frappé de plein fouet, donc on vient de le dire, par la crise. Combien de pertes d'emplois y a-t-il eu à ce jour dans l'industrie en France? Combien en craignez-vous?
Alors, combien il y en a eu dans l'industrie aujourd'hui, les éléments qui nous remontent... D'abord, pas tant que ça, on va le dire comme ça.
Pas tant que ça,
puisque aujourd'hui, vous avez compris que ce sont les CDI. Grâce à la mesure de chômage partiel que nous avons mise en place, ont vu plutôt leur contrat sécurisé. Ce qu'Elisabeth Borne nous dit, c'est qu'elle a un peu plus de 300... entreprises qui ont déposé à ce stade des plans sociaux correspondant à peu près 50 000 emplois. Ces plans sociaux ne correspondent pas uniquement au secteur de l'industrie.
Donc c'est combien dans l'industrie? Alors, c'est-à-dire, vous en craignez à venir? Pour l'instant, vous dites, c'est pas tant que ça. C'est le plus dur reste à venir?
Il est clair que, et on ne le cache pas, nous devons regarder comment évolue la conjoncture mondiale. L'industrie va repartir aussi. Je rappelle que l'industrie, elle est à l'origine de plus de 90% de nos exportations. Donc, elle est dépendante de la capacité de l'Europe à rebondir et de la capacité des autres géographies à rebondir. D'où l'importance d'avoir un plan de relance européen aussi massif. C'est également un élément de reprise de l'industrie.
Mais vous avez des structures de prospective dans vos ministères, dans votre ministère. Est-ce que vous pouvez nous dire, aujourd'hui, voilà, on craint tant de plans sociaux dans les mois à venir?
Non, je ne vous dirai pas ce chiffre parce que je crois que ce serait très présomptueux et bien méconnaître la réalité des incertitudes dans lesquelles nous avançons. Je rappelle qu'il y a le Brexit, je rappelle qu'il y a des tensions commerciales, je rappelle qu'il y a la dynamique du virus. Nous, notre
Donc
travail...
Donc ça pourrait être pire que prévu. Parce que là, on parle d'un million de...
Ou bien mieux, monsieur Sportouche. Je rappelle qu'au mois de mai, nous avions une prévision de moins 11% de recul du PIB pour la France et qu'aujourd'hui, grâce aux différentes mesures que nous avons prises, nous nous situons beaucoup mieux dans une trajectoire de baisse
massive.
Combien,
rappelez-nous ?
Aujourd'hui, on est plutôt du côté de moins 10%. Et que ce soit sur le déficit public, sur la dette, on a des chiffres qui sont meilleurs que ceux que Bruno Le Maire avait annoncés au mois de mai. Mais encore une fois, il l'a dit très clairement. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte de faire le mieux possible et de sauver le maximum d'emplois et le maximum d'entreprises.
Bien moins bon que l'Allemagne, par exemple. Les Français le savent, qui va être à moins 6% seulement. Comment vous expliquez cette différence avec notre voisin direct?
Je crois qu'il ne faut pas oublier d'abord que l'Allemagne avait l'année précédente trois fois moins de croissance que la France. Donc il faut toujours se méfier des effets de base, si je puis me permettre. Il faut le rappeler. Il faut rappeler que la France sort d'un bilan où nous avons créé en 3 ans 500 000 emplois, où nous avions une croissance en fin d'année 2019 de 1,5%, là où l'Allemagne était à 0,5%.
Donc voilà des éléments. En Allemagne, quand même.
Et avec un chômage qui était le plus bas que celui que nous avions connu en 10 ans. Et un taux d'emploi, élément aussi intéressant, le plus élevé depuis 40 ans. Donc je ne dis pas tout était parfait, mais je dis que la tendance n'avait jamais été aussi bonne depuis au moins 10 ans. C'est quand même intéressant de le souligner.
Adrien Gendre.
On a parlé là des effets liés au Covid. Incontestablement, ça déstabilise un certain nombre d'entreprises. Mais on ne peut pas s'empêcher, et c'est la crainte de beaucoup, de se dire qu'il puisse y avoir des effets d'aubaine pour certaines sociétés et qu'elles profitent de cette crise pour procéder à des restructurations et à des suppressions de postes. Je voudrais vous poser la question, par exemple, sur le distributeur Auchan. Il y a près de 1500 suppressions de postes qui sont envisagées. Est-ce que là, vous vous dites, bon, bah, on est dans un fonctionnement normal, le Covid est passé par là, on doit laisser l'entreprise se restructurer? Ou est-ce que là, pour vous, il y a un effet d'aubaine, justement?
L'effet d'aubaine, ce serait une entreprise qui utiliserait de l'argent public pour procéder à des restructurations. Et c'est sur ce type de sujet que nous allons nous mobiliser. Lorsque nous regardons très concrètement comment les entreprises ont utilisé le chômage partiel et tous les contrôles que d'abord Muriel Pénicaud, puis maintenant Elisabeth Borne font, visent justement à faire la chasse à la fraude et à toutes les mesures d'aubaine.
On a vu qu'il y en avait eu.
En revanche, lorsque vous restructurez une entreprise, quelle que soit la raison pour laquelle vous la restructurez, le sujet c'est de savoir comment on peut minimiser l'impact sur l'emploi. Nous, c'est comme ça qu'on raisonne. C'est quel est l'impact de la crise sur le carnet de commandes? Et nous savons qu'il y a des secteurs où cet impact, il est de plus de 50%. Plus de 50%. Et c'est littéralement la terre qui se dérobe sous vos pieds. Et lorsque vous êtes dans ces situations-là, comment fait-on pour préserver au maximum les compétences? Parce qu'on sait qu'on va avoir un trou d'air, mais qu'on va rebondir derrière.
Quel que soit le motif, les entreprises qui doivent restructurer, qui pensent devoir restructurer, vous leur dites allez-y.
Je ne leur dis pas allez-y. Je traite, et c'est plutôt d'ailleurs Elisabeth Borne qui le fait, je traite chaque plan social, nous traitons chaque plan social en nous assurant de la qualité du dialogue social, qui est essentiel, de la qualité du plan social, de la qualité des contreparties et de la qualité du raisonnement économique qui a conduit à faire ce plan social. Et notre objectif, il est très simple, de minimiser l'impact sur les compétences et sur les territoires de ces plans sociaux. Et je crois qu'aujourd'hui, si on regarde au plan international, on a plutôt réussi et on doit continuer.
Mais Agnès Pannier-Runacher, contradiction entre le moment où vous nous dites l'État n'est pas un industriel et le moment où vous nous dites nous regardons plan social par plan social si en gros les usines peuvent survivre ou non, si le plan est rigoureux. Est-ce que c'est pas au chef d'entreprise de décider ça, si une entreprise est viable ou non?
Dès lors qu'on utilise l'activité partielle de longue durée, dès lors qu'on utilise justement des prêts garantis par l'État, il est totalement légitime que l'État pose un avis. Et c'est très différent de donner un avis sur la base d'une copie d'un industriel, et nous nous équipons avec des cabinets conseils qui nous aident dans cette expertise-là, que de exécuter une stratégie industrielle. J'ai été dans l'industrie, je peux vous assurer que ce n'est pas du tout le même métier d'aller produire au jour le jour des portes de voiture comme j'ai pu le faire en Angleterre, ou des planches de bord en Allemagne, que de porter un regard sur la stratégie d'une entreprise, son bon fonctionnement et le fait qu'effectivement elle s'est à la fois saisie de tous les dispositifs que nous avons mis sur la table pour préserver la densité industrielle, pour préserver les sites industriels, pour préserver les emplois, et en même temps qu'elle ne va pas trop vite à la conclusion. C'est exactement ce qu'on dit pour Bridgestone. Ce qu'on dit pour Bridgestone, c'est commençons par regarder ce qui peut être gardé.
Mais dites-nous, Agnès Pannier-Runacher, vous avez eu cette déclaration qui avait surpris il y a quelques temps, disant qu'il fallait probablement travailler plus que nous l'avons fait avant pour rattraper la perte d'activité induite par le confinement. Est-ce que, par exemple, pour Auchan, il aurait fallu demander aux salariés de travailler davantage pour éviter les licenciements?
Alors, cette déclaration, je le redis parce qu'elle avait été sortie de son contexte, je l'avais fait en parlant des indépendants. Les indépendants, comme vous le savez, eux, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir travailler. Vous avez beaucoup d'indépendants, c'est mon collègue Alain Grisé, qui aujourd'hui est à la manœuvre pour les accompagner, qui n'aspire qu'à une chose, c'est de pouvoir travailler plus, pour pouvoir travailler plus longtemps, et de voir, pour ceux qui ont encore leur activité fermée, pouvoir réouvrir leur activité. Ils sont bien conscients de la situation sanitaire, mais je peux vous dire que la première chose que veut un patron de discothèque, c'est de pouvoir réouvrir, c'est pas d'avoir des aides d'État.
Donc pas d'augmentation du temps de travail, ça c'est quelque chose que vous excluez, c'est pas une des demandes du MEDEF, c'est pas un processus que vous allez
encourager. Moi, pour préciser mon propos, ce que je demande, c'est qu'il y ait des discussions au sein des entreprises. On a un outil qui s'appelle l'accord de performance et de compétitivité. L'accord de performance et de compétitivité, il va définir la meilleure manière pour une entreprise de s'en sortir. À certains endroits, quand vous avez de l'activité partielle, c'est du partage du temps de travail. Ça veut dire que les gens travaillent moins. À d'autres endroits, au contraire, il y a une opportunité à se développer et peut-être on peut remettre les conditions du temps de travail sur la table. Mais c'est au niveau de chaque entreprise. Et là, pour le coup, je vous rejoins. C'est là où il y a un sens à ce que les dirigeants de l'entreprise, mais pas tout seul, avec les salariés, et cette discussion mature, c'est très exactement ce que fait l'Allemagne. Tout le monde célèbre les accords d'IG Metall. Les accords d'IG Metall, c'est soit des accords de partage du temps de travail de type activité partielle de longue durée, soit des accords, au contraire, d'efforts pour travailler plus lorsqu'il y a des opportunités de marché.
Guillaume Roquette.
Oui, il y a une autre de vos déclarations qui avait surpris quand, je crois que c'était au mois de mars, vous aviez dit, c'est le moment d'investir en bourse parce que la valeur des entreprises va monter.
Oui. Effectivement, parce que je crois que si on veut que les Français aient plus de poids dans le capital de leurs entreprises, il ne faut pas qu'ils hésitent à investir dans ces entreprises. On ne peut pas à la fois être embêtés par le fait que vous ayez des capitaux anglo-saxons dans les entreprises françaises et considérer que ça a un impact sur leur stratégie, et en même temps ne pas dire, eh bien, relevons-nous, retroussons les manches et soyons tous capables, ceux qui en ont évidemment les moyens, d'orienter notre épargne dans les entreprises françaises. Et ça ne concerne pas que les grandes entreprises. Je crois que de manière générale, effectivement, l'épargne investie dans les entreprises françaises, c'est un service que nous rendons à l'économie.
Donc vous le rediriez. Et en plus, c'était un bon conseil, ouais. Parce que depuis votre recommandation, le CAC 40 a gagné plus de 20%.
Écoutez, je ne fais pas du trading, mais je sais effectivement, pour avoir été au fonds stratégique d'investissement en 2008, et c'était le fond de mon propos, c'était de dire la valeur des entreprises n'est pas égale à celle que reflète la bourse dans un moment de crise. Elle est supérieure parce qu'elle ne prend pas en compte toute la réalité des savoir-faire, des brevets, de tout ce qu'a développé l'entreprise, de la qualité des structures et des sites. Donc, très exactement, la bourse n'a pas toujours raison.
Adrien Gendre.
Vous disiez tout à l'heure, l'important, c'est la qualité du dialogue social, préserver l'emploi. Il y a parfois des décrets venus du gouvernement qui jettent le trouble. J'aurais vous parler du site Inteva à Saint-Dié, dans les Vosges, qui respecte une règle qui existe depuis quelques semaines, à savoir que le patron de l'entreprise va pouvoir se porter candidat à la reprise de son site, alors même qu'il aura été débarrassé des dettes. Et que les salariés redoutent également qu'ils se soient débarrassés de l'intégralité du site de Saint-Dié, en l'occurrence 241 personnes. Quelle est la cohérence, là, Espagne-Renaché, quand on dit on veut préserver le dialogue social, on veut préserver l'emploi, et en même temps, on permet à des patrons de reprendre des sites sans les dettes et sans les salariés?
Alors, je vous rassure, c'est parfaitement cohérent. Pourquoi? D'abord, cette possibilité, elle existait avant. Ce qu'a fait le décret que vous mentionnez, c'est juste de simplifier la procédure. La deuxième chose, c'est que ça s'est fait dans un moment de crise, et nous en avons parlé avec Elisabeth Borne. Ce décret a une date de valeur jusqu'au 31 décembre de cette année, et je peux vous annoncer que, à compter du 1er janvier, la procédure plus complexe qui suppose un avis motivé du procureur auprès du tribunal de commerce sera remise en place. Donc, il s'agissait de traiter rapidement des situations de faillite sur lesquelles nous n'avions pas la main.
Pourquoi ne pas l'abroger d'ici le 31 décembre? Parce qu'on voit les dégâts que ça peut causer et les abus.
Je vais aller jusqu'au bout de mon propos, si vous le permettez, monsieur Sportouche. L'entreprise dont on parle, c'est une entreprise qui est en cessation de paiement. Elle est en cessation de paiement. C'est pas, vous n'êtes pas en redressement judiciaire parce que vous le réclamez, vous êtes en redressement judiciaire parce que vous avez une situation financière qui fait que vous ne pouvez plus faire face à vos dettes, et en particulier pas à vos dettes créances avec les banquiers, qui peuvent toujours se négocier, mais vous ne pouvez plus payer les salaires. C'est ça la situation. Et on parle d'une entreprise qui perd 30 millions d'euros depuis 3 ans, donc qui n'est pas exactement en bonne posture. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une négociation entre... une ouverture, et on appelle tous les repreneurs à se présenter. Aujourd'hui, un seul repreneur est capable de reprendre 2 des 3 usines. Et moi, mon travail, c'est pas de me mêler la négociation entre les banques et les actionnaires. Ça, c'est une négociation contractuelle qui est dans un cadre qui est régi par le tribunal de commerce et qui est lié au fait que cette entreprise n'a plus les moyens de faire face à ses dettes. Mon sujet, c'est de m'assurer que, quand bien même il y a un raccourcissement de procédure, les salariés soient traités comme s'ils avaient un PSE. Et c'est très exactement ce que nous avons fait sur cette usine à Saint-Dié. C'est-à-dire que nous avons remis tout le monde dans la pièce de négociation. Non seulement le propriétaire de l'entreprise, mais aussi ses 2 clients principaux, qui sont ceux qui réclament la délocalisation en Roumanie, je me permets de le souligner, Peugeot et Renault. Et avec tous ces acteurs autour de la table, nous avons trouvé un accord qui puisse protéger les salariés avec un déroulement comme s'ils avaient eu une procédure classique de fermeture d'usine.
Ce décret ne sera pas reconduit au-delà du 1er janvier. C'est l'annonce que vous nous faites. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde partie de ce grand jury d'Agnès Pannier-Runacher. On parlera notamment de la 5G. À tout de suite.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. À demain pour notre balade au cœur du patrimoine musical et à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.
RTL Matin, 7h25, les pépites d'Anthony Martin.
Ah, Michel, tu tombes bien. Tu pourrais me dépanner d'un euro pour que je m'achète un café à la machine, s'il te plaît? J'ai oublié mon liquide.
Un euro? Et puis quoi encore? Tu veux que je te donne ma baraque et les clés de mon crafter aussi? Ça va pas mieux, toi, hein?
Chez Volkswagen Véhicule Utilitaire, un euro, c'est beaucoup. Venez profiter d'une garantie 5 ans ou 200 000 km à seulement 1 euro pour tout achat d'un véhicule de la gamme Crafter.
Offre valable sur la gamme Crafter TDI jusqu'au 30 novembre 2020, réservée aux professionnels hors Loire et Flotte. Détails et conditions sur volkswagen-utilitaire.fr.
Sur RTL.
Tous les jours, c'est le 9h30, 11h30, avec une demi-heure en plus. Retrouvez-moi tous les matins pour régler vos litiges avec mes avocats et mes experts.
Le 9h30, 11h30, c'est avec Julien Courbet sur RTL.
RTL, il est 12h30. Les informations, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Peggy, bonjour à tous. Un accord de méthode signé vendredi entre la direction de Bridgestone et les représentants des salariés de l'usine de Béthune, annonce d'Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Accord qui permet de rouvrir des scénarios alternatifs et une négociation pour 5 mois. L'entreprise japonaise avait annoncé la fermeture du site en avril prochain, menaçant 863 emplois. Vers un retour à la normale dans le Gard, département fortement touché par les intempéries et les crues. 5 routes coupées à Valrhogue. L'armée est en train d'acheminer des palettes d'eau potable dans la zone sinistrée. Une aide-soignante de 64 ans est toujours portée disparue, emportée par les eaux à Pondéro hier. Les ministres Gérald Darmanin et Barbara Pompili se rendent ce soir sur place. Près de 13 500 cas de coronavirus en 24 heures. Situation préoccupante en Ile-de-France. Le directeur de l'ARS parle d'une remontée très forte, mais pas encore d'un tsunami. 75 députés de la majorité lancent aussi un appel à se faire vacciner massivement contre la grippe pour éviter 2 épidémies en même temps. Au Royaume-Uni, les autorités ne laisseront plus rien passer si un Britannique ou un touriste est contaminé et qu'il ne respecte pas son autoconfinement. Il se verra obligé de payer une amende de 10 000 livres sterling, soit 11 000 euros. Le Tour de France et l'arrivée sur les Champs-Élysées ce soir devant un public réduit et masqué, pas plus de 5 000 personnes. Le haut du classement général ne devrait pas bouger et Tadej Pogacar devrait remporter la compétition. Émission spéciale des 18h sur RTL avec Vincent Parisot, Isabelle Langer et toute l'équipe de RTL sur cette grande boucle. En football, 2 rencontres de Ligue 1 à suivre aujourd'hui. Nice reçoit le PSG à 13h. Match à huis clos en raison de la Covid-19. Bonne nouvelle en revanche, le retour de Kylian Mbappé dans le groupe parisien. Autre rencontre à suivre, Marseille accueillera Lille à 21h. À suivre dans RTL Foot. La météo, ciel couvert et orageux sur les 3/4 du sud du pays avec des pluies parfois soutenues dans le sud-est. Le ciel sera en revanche plus lumineux du nord de la Seine avec de belles éclaircies entrecoupées de rares averses. Côté température, comptez de 20 degrés à Rodez, à 29 degrés pour la maximale à Reims et Paris. Et puis les courses à Vincennes, Dominique Cordier vous conseille de jouer le 3, le 12, le 6, le 8, le 13, le 4, l'As, le 7 et sa dernière minute, le 6, Soldio ZL. RTL, il est 12h32, la suite du grand jury.
Pierre, quelle est votre saison préférée?
Je les aime toutes, mais j'adore la lumière de septembre. Confortablement installé dans ma véranda Rénoval, je regarde le soleil jouer avec les nuages. Magique!
Faites vous aussi le choix d'une véranda personnalisée Rénoval. En ce moment, 100 euros offerts pour 1000 euros d'achat. Conditions en magasin.
Rénoval.
Véranda, extension, abri de piscine.
Au fait, maman, j'ai pensé à toi.
Ah bon, pourquoi?
J'ai contacté la Mutuelle Intégrance. Tu sais, ma complémentaire santé. Ils ont les mêmes valeurs que toi. La solidarité, l'écoute, prendre soin des autres.
Ah, c'est beau de savoir que ça existe encore. Mais elle propose quoi de plus, ta Mutuelle Intégrance?
Des garanties innovantes et complètes, quels que soient tes besoins. Renseigne-toi.
Ah oui, tu as raison.
La Mutuelle Intégrance peut être aussi la vôtre. Ensemble, vivons l'esprit de solidarité. Plus d'informations sur intégrance.fr.
Bonjour à tous, c'est Thomas Soto. On se retrouve tous les soirs à partir de 18h pour RTL Soir avec, comme d'habitude, les invités qui sont au cœur de l'actualité. Quelques nouveautés aussi, Valérie Trier-Weller qui rejoint l'équipe de L'Œil 2 aux côtés de Natacha Polony et de l'inimitable Philippe Cavrivière. Et puis à partir de 19h, le monde tel qu'il est, c'est vous qui nous racontez l'actualité à partir de votre expérience, le monde tel qu'il est, mais aussi le monde de demain avec Cyprien Sini. Ça c'est pour finir. À demain pour RTL Soir.
Retrouvez Thomas Soto du lundi au jeudi à 18h dans RTL Soir. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Guillaume Roquette du Figaro et Adrien Gindre de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie sur la 5G. Adrien.
La technologie 5G va faire son arrivée en France puisque la mise à l'enchère des fréquences est programmée. Cette semaine, le gouvernement a expliqué qu'il n'y avait pas de raison de décider d'un moratoire sur la question. Le président de la République, il y a quelques jours, disait même que ne pas vouloir de la 5G, c'est préférer le modèle Amish et la lampe à huile. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Est-ce qu'on ne peut pas être opposé à la 5G ou avoir des réserves sur la 5G en étant tout à fait rationnel?
On peut avoir des questions légitimes sur la 5G et c'est très exactement pour ces raisons. L'impact sanitaire, l'impact environnemental que nous avons lancé depuis 2 ans, puisque la feuille de route sur la 5G, elle date de juillet 2018 pour le gouvernement. Toute une série d'études, de mesures avec nos agences indépendantes, l'ANSES, l'Agence nationale des fréquences, l'ADEME, etc., pour justement un peu prendre la mesure de cette nouvelle technologie. Ce qui est un peu perturbant, c'est que, ayant fait tout le tour de ces études, on arrive effectivement, à une première conclusion qui est que, s'agissant des radiofréquences dont on parle, qui sont des radiofréquences dans lesquelles nous baignons tous depuis des années. Je rappelle que la télévision, avant qu'elle devienne TNT, c'était par des antennes avec des radiofréquences. Ce que nous allons attribuer comme fréquence, c'était celle utilisée par les radios locales il y a 15 ans. Donc, c'est toujours les mêmes radiofréquences dont on parle. La technologie pour utiliser ces radiofréquences a évolué et elle permet, avec les mêmes ondes, de faire passer plus vite plus de données. C'est plutôt heureux, mais on est toujours dans ce sujet de radiofréquences.
Donc, vous ne croyez pas à la sincérité de ceux qui s'inquiètent ou qui sont opposés?
Je pense qu'il y a soit une prise de conscience tardive, et donc il y a le temps de prendre connaissance de tout ce qui a été fait sur en termes de travaux, et pas seulement en France, puisque comme vous le savez, la 5G aujourd'hui a été attribuée dans les plus grands pays de l'OCDE, et notamment des pays qui sont très regardants sur les sujets sanitaires. Je pense au Japon, je pense aux pays en Scandinavie, tout le monde a eu les mêmes préoccupations, qui encore une fois sont parfaitement légitimes, et c'est pour ça que nous avons une réglementation qui limite les expositions au niveau de fréquence et des mesures qui sont régulièrement faites. Et pour rassurer tout le monde, Cédrico a été très clair sur le fait qu'il allait...
Le
secrétaire d'État au numérique qui a repris ce dossier pour indiquer qu'il allait multiplier les points de mesure pour vraiment s'assurer que dans le déploiement, on n'avait pas de choses qu'on aurait ratées sur le déploiement de la 5G. Donc oui, soit le temps de prendre connaissance de cette nouvelle technologie, soit peut-être un peu d'instrumentalisation politique, on ne saurait l'exclure.
Mais vous, le terme d'Amish, vous n'avez pas trouvé ça un peu exagéré de la part du président de la République? C'était pas une
forme
de
caricature? Je pense que c'est très visuel.
C'est très visuel. C'est pas une forme de caricature de leurs propos?
Mais parce que notre
inquiétudes que certains peuvent avoir.
Parce que notre propos est caricaturé. Je rappelle que la grande percée conceptuelle quand même de ELV, c'est la 5G, ça sert à regarder des vidéos porno dans l'ascenseur. Enfin, pardon, mais moi qui m'occupe de l'industrie,
vous avez dit, Eric, à votre place.
Tout à fait. Je trouve ça même cynique et indécent. Indécent parce que derrière la 5G, il y a des enjeux de compétitivité industrielle majeurs. Alors, est-ce qu'on veut faire de la reconquête industrielle en allant en petite voiture, là où les autres sont avec des véhicules supersoniques? Ce n'est vraiment pas sérieux, et ce n'est pas sérieux à un moment où on est confronté à une crise économique, où justement tout le monde est réuni pour dire que l'industrie, c'est une priorité.
Agnès Pannier-Runacher, est-ce que la 5G sera prioritaire, installée prioritairement dans les zones blanches, puisqu'il y a encore dans notre pays des gens qui n'ont pas accès à Internet, de
Alors ça, c'est le deuxième élément et le deuxième propos qui est assez étonnant, c'est que nous sommes l'équipe gouvernementale qui avons installé le plus de 4G et de très haut débit. Vous avez, en 15 ans, 600 pylônes qui ont été installés. Nous en installons 2000 en 2 ans. Nous avons accéléré le plan de déploiement du très haut débit. Il a doublé de vitesse précisément parce qu'il y avait des zones blanches. Et je veux rassurer tout le monde, quand vous installez une antenne 4G, en fait, pour passer en 5G, il suffit de changer une toute petite chose. Donc une antenne 4G virtuellement peut basculer
donc
en 5G.
Donc il n'y aura pas d'antenne supplémentaire, c'est ce que vous nous dites. Il y aura une modification d'antenne existante.
Techniquement, c'est la même chose. Et ce que nous avons prévu dans la stratégie de déploiement, mais attention, la stratégie de déploiement de la 4G, elle est très active et elle a vocation à couvrir l'ensemble du territoire d'ici 2022. La stratégie de déploiement de la 5G, elle démarre plus lentement. Elle permet, dans les grandes métropoles, de redonner du réseau là où c'est saturé. Donc, c'est un complément à la 4G. Et nous avons prévu un minimum de déploiement dans les zones blanches, justement dans les territoires d'industrie, pour éviter ce qu'ont fait nos prédécesseurs, c'est-à-dire de privilégier les grandes villes au détriment des zones rurales. Nous l'avons anticipé dans le déploiement de la 5G.
Venons-en à la pandémie. Il y a eu un conseil de défense sanitaire vendredi, Adrien Gendre.
Et une annonce très personnelle, le ministre de l'économie, le ministre de tutelle, Bruno Le Maire, qui a annoncé lui-même avoir été testé positif à la Covid. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui, mais on est aussi étonné. Vous n'avez pas eu l'occasion de le croiser ces derniers jours. Vous n'êtes pas considéré comme cas contact. Il n'y a pas eu de mesure particulière vous concernant?
Non, parce que je n'ai pas passé 15 minutes avec lui depuis le début du moment où il est considéré comme contaminant. Donc effectivement, je suis préservée. Il se trouve que moi, le Conseil des ministres, je le suis à distance avec mes collègues ministres délégués et que lui était dans la salle du Conseil des ministres pour donner cet exemple-là. Et donc voilà, je ne suis pas... J'ai été cas contact en rentrant de vacances, mais là, je ne suis pas cas contact. Et je vous rassure, il va très bien, puisqu'on correspond régulièrement.
Il nous l'a dit.
Et il a dit également qu'il continue à travailler depuis chez lui. Est-ce que vous, au ministère et dans votre cabinet, vous pratiquez le télétravail? Parce qu'on a entendu ces dernières semaines beaucoup dire que ça pouvait être un moyen de lutter contre l'épidémie, d'éviter aux gens d'avoir trop de contacts, de prendre les transports. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique au sein même du gouvernement?
Moi, je pratique d'abord les gestes barrières. Je rappelle que c'est le premier élément. Et je le pratique extrêmement strictement, c'est-à-dire y compris dans les petits déjeuners et les déjeuners. On respecte les distances et j'enlève mon masque strictement au moment où je prends ma tasse de café ou je grappille un morceau de pain. Donc, pourquoi je le fais? D'abord parce que je sais ce que c'est qu'être cas contact. Hein. J'ai été isolée 14 jours parce que j'étais sous la jurisprudence antérieure, que c'est compliqué. Deuxièmement, parce que n'ayant pas été atteint du Covid, comme tout le monde, j'ai une forme d'inquiétude sur ce que ça pourrait produire sur moi. Et parce que je pense que les membres du gouvernement doivent absolument être exemplaires. Et
mais nous sommes barrières exemplaires. Mais les travail en ce qui concerne...
nous utilisons beaucoup les visio et le téléphone également.
Agnès Pannier-Runacher, après les masques et la cacophonie sur les masques, on va y revenir, mais il y a aujourd'hui le problème des tests. Les Français se font tester massivement à l'appel du gouvernement et il y a certains laboratoires qui sont en pénurie de réactifs ou qui ont cette crainte-là. Comment se fait-il que le gouvernement n'ait pas anticipé cet afflux de demandes et donc il peut y avoir aujourd'hui cette crainte comme il y a eu la crainte sur le manque de masques?
Je crois que le gouvernement a anticipé cet afflux de demandes. Simplement, vous ne multipliez pas par 10. Parce que c'est ça, hein. On est aujourd'hui à 1 200 000 tests. Donc vous ne multipliez pas par 10 le nombre de tests sans avoir un peu de tension sur les produits de base. C'est vrai pour tous les sujets.
Donc il y aura de la tension mais pas de pénurie, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Vous nous certifiez qu'il n'y aura pas de pénurie.
Cette question, vous pouvez l'adresser à Olivier Véran. Moi, ce que je vous dis, c'est deux choses.
En même temps, c'est industriel la production de réactifs. Enfin, je me dis naïvement, il faut produire du réactif. Donc ça vient directement de votre giron.
Je crois que le sujet, au-delà des réactifs, c'est aussi le personnel humain pour faire les tests, c'est-à-dire à la fois les prélèvements, mais également le traitement des prélèvements. Et c'est pour ça que Olivier Véran a notamment accéléré la mise sur le marché des tests salivaires, qui est une façon aussi de baisser la pression. C'est pour ça qu'on a très clairement priorisé entre les personnes qui doivent absolument être testées, avoir un résultat rapide parce qu'ils sont cas contact ou parce qu'ils présentent les symptômes, et les personnes, et on ne veut pas les décourager d'aller se faire tester parce que c'est un comportement utile. Lorsque moi je l'ai fait avant d'aller voir mes parents qui ont 75 ans, j'ai fait tester au mois d'août toute la famille en disant on va pas jouer avec les allumettes, j'ai pas envie que mes parents l'attrapent ce virus, il sera probablement beaucoup plus dur pour eux que pour moi. Donc c'est les deux aspects et nous continuons à développer. Je crois qu'on doit plutôt se réjouir aujourd'hui d'arriver à faire 1 200 000 tests, ce qui nous met parmi les premiers pays européens.
Vous comprenez bien que quand vous dites que nous avons anticipé ce qui se passe sur les tests, c'est difficile à entendre problème pour les Français qui voient qu'ils doivent attendre des heures pour avoir des tests, qu'ils mettent plusieurs jours, parfois une semaine pour avoir les résultats. Est-ce que vous ne devriez pas dire, oui, on est un peu dépassé par les demandes de tests. Regardez ce qui s'est passé sur les masques. Le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, a fini par le reconnaître. Avec le recul, on sait qu'on aurait dû dire plus simplement qu'il n'y en avait pas assez.
Alors, moi, je peux vous dire ce qu'on a fait pour avoir des masques. Et c'est surtout ça qui compte.
Ah non, c'est pas... Non, Agnès Pannier-Runacher, excusez-moi. La question, c'est... Et c'est le patron du parti auquel vous appartenez, le premier à avoir dit... Il n'y avait pas suffisamment de masques. C'est pour ça qu'on a dit aux gens de ne pas en porter. Nous n'avons pas entendu cette
parole. Non, il n'a pas dit ça. Alors, pardon. Bah. Non, il n'a pas du tout dit ça. Il n'a pas du tout dit ça. Il a
avec
pas dit...
le recul, on sait qu'on aurait dû dire plus simplement qu'il n'y en avait pas assez.
Oui, il n'a pas
recul,
fait le lien.
On sait qu'on aurait
pardon,
dû dire plus simplement qu'il n'y avait pas assez, Agnès Pannier-Runacher.
Il n'a pas fait le lien avec... Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il ne fallait pas en porter. On a dit qu'il ne fallait pas en porter. Désolé, hein. Mais on a dit qu'il ne fallait pas en porter parce que nous avons suivi un certain nombre d'expertises qui, à l'époque, pensaient que le virus ne se transmettait pas par aérosol. Ça, c'est le premier point. Et ensuite... on a été confronté à une tension sur les masques, ce qui est parfaitement exact. Et personne n'a dit
c'est
le contraire, qu'il y avait une
vous
tension
en avez,
sur les masques.
Runacher, il n'a pas démenti l'interprétation que je fais aujourd'hui et que d'autres ont fait sur le fait qu'il en manquait et que du coup, nous avons, les Français n'ont pas pu emporter. Adrien Gindre.
Vous dites qu'il y a eu une tension sur les masques. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable en France de produire les masques dont on a besoin et de les produire à un coût raisonnable pour le consommateur? Parce qu'on avait entendu les distributeurs nous dire on va pouvoir baisser nos prix quand on aura écoulé les stocks venus de Chine qui ont été importés à très fort coût. Mais le fait est que dans la grande distribution, il reste encore beaucoup de masques qui sont à un prix qui est quand même très conséquent pour les consommateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas baisser le prix maximum des masques chirurgicaux qui avait été fixé à 95
centimes? Alors d'abord, vous citez la grande consommation. Dans la grande consommation, aucun masque n'est vendu au prix plafond que vous mentionnez. Ils sont vendus plutôt du côté de 60 centimes d'euros, voire plus bas. Donc c'est pour dire que en fait, ce prix plafond, nous, on fait des études très régulières avec la DGCCRF.
C'est pour ça que je vous demande s'il ne faut pas le baisser.
Ne constitue pas du tout un repère de marché aujourd'hui. Il est en train, Alain Grisé et Bruno Le Maire sont sur ce sujet-là, d'être revu pour le positionner effectivement à un bon niveau, puisque l'enjeu c'est d'éviter que certains fassent des marges qui
c'est
nous paraîtraient
bon
abusives.
C'est quoi le bon niveau, Agnès Pannier-Runacher?
Alors ça, je vous renvoie vers eux parce que ça fait l'objet d'une concertation. Il faut à la fois prendre en compte le coût de production en France. Le coût de production en France est plus élevé en Chine pour une raison toute simple, c'est que nous n'avons pas un accès à la matière première encore. Nous sommes en train de développer les capacités pour produire cette matière première. Et donc, au niveau chinois, elle nous est vendue plutôt plus cher qu'elle n'est vendue en Chine. Et pour répondre à la question que vous posiez, Monsieur Gindre, nous étions à 3,5 millions de masques par semaine. 3,5 millions de masques chirurgicaux et FFP2 au mois de janvier. Produit. Nous sommes aujourd'hui à une production qui est supérieure à 50 millions de masques par semaine. Nous serons à 100 millions de masques par semaine en fin d'année. Donc oui, effectivement, nous avons mobilisé un outil industriel. Et oui, au mois de mars, et je l'admets totalement, puisque nous avons remué salitaire pour obtenir cette souveraineté en matière de masques, cette indépendance en matière de masques, nous n'étions pas dans cette situation. Donc, et nous avons également déployé des masques textiles comme celui-là, hein, tout simple.
Ça filtre.
Ça filtre 98%. 98% des molécules de 3 microns. Donc c'est
d'ailleurs, vous avez demandé aux entreprises de les distribuer plutôt que des masques chirurgicaux classiques jetables. Et vous n'avez pas été globalement entendu sur ce point à ce jour.
Oui, parce que c'est plus facile d'utiliser le jetable.
Et vous le regrettez, vous leur relancez un appel?
Ah, je leur relance un appel, bien volontiers.
Pour qu'ils utilisent, parce qu'il y a une surproduction encore aujourd'hui de masques.
Non, il n'y a pas de surproduction. Il y a des stocks, mais il n'y a pas de surproduction. La production s'est adaptée à la demande. Mais il y a une déception d'un certain nombre d'acteurs du textile qui sont capables de produire des produits extrêmement protecteurs. C'est plus écologique et c'est moins cher pour le budget. Vous posiez la question du prix. Ça, c'est moins de 10 centimes à l'usage. À comparer au prix des masques chirurgicaux que
vous achetez. L'appel est lancé aux chefs d'entreprise. Nous parlons aussi des vaccins, puisque c'est une préoccupation des Français quand il y aura un vaccin. Sanofi, grand laboratoire pharmaceutique français, est sur le point, enfin, essaie de développer un vaccin. Et dans le même temps, il veut supprimer 1700 emplois en Europe, dont 1 millier en France. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'il n'y a pas une vision court-termiste à vouloir supprimer des emplois alors qu'on pourrait avoir besoin de faire une production massive d'un vaccin à venir?
Ce n'est pas les mêmes emplois et vous ne mentionnez pas le fait qu'ils sont en train d'en recréer précisément en installant une usine à vaccins à Marcy-l'Étoile où ils investissent 600 millions d'euros d'investissement. investissement. Donc,
mais ils suppriment
ils vont
1000
créer
emplois.
Plusieurs centaines d'emplois. Les emplois que vous mentionnez sont sur des divisions qui n'ont rien à voir avec le vaccin. C'est sur le diabète, par exemple. Et ce sont des produits sur lesquels ils se sont désengagés.
Mais ces emplois ne peuvent pas être orientés sur une autre production.
Ce n'est pas les mêmes compétences. On ne bascule pas du diabète au vaccin du jour au lendemain.
Je sais pas, le gouvernement nous dit tout le temps qu'il faut reformer, former, faire de la formation. Alors, en l'occurrence,
je vous rassure, c'est un plan de départ volontaire. Qui dit il n'y a pas de départ contraint chez Sanofi. Pas un seul départ contraint. C'est un plan de départ volontaire, ce qui veut dire que les personnes sont effectivement accompagnées dans l'emploi et sécurisent leur sortie.
Tout autre sujet, les sujets régaliens qui sont aussi sur la table. Une question sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine, Guillaume Roquette.
Oui, où une jeune femme syndicaliste représentant l'UNEF est venue à l'Assemblée pour une audition avec un voile musulman. Un certain nombre de parlementaires présents sur place ont quitté la salle. Est-ce que vous auriez fait la même chose à leur place ?
Non, parce que moi j'applique la loi. La loi, elle est assez claire. Les personnes détenteurs d'une mission de service public ne doivent pas porter de signes extérieurs mentionnant leur religion, d'ailleurs d'autres formes de prise de position. C'est la neutralité. En revanche, des personnes qui sont des particuliers, dès lors qu'elles respectent la loi de la République, peuvent s'habiller comme elles le souhaitent.
Adrien Gendre.
Ce matin, Xavier Bertrand s'en prend au président de la République sur la question du séparatisme. Il explique, je cite, qu'Emmanuel Macron est un grand naïf qui n'a pas pris la mesure des problèmes et qui parle de séparatisme parce qu'il a des problèmes à évoquer le communautarisme et l'islamisme. Ça fait un moment qu'on attend que le gouvernement et le président se positionnent sur la question. Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, urgence sur ce sujet qui ne cesse d'être repoussé dans l'agenda gouvernemental ?
C'est oublier tout ce qui a été fait depuis 3 ans. C'est oublier que nous sommes le premier gouvernement à avoir fermé autant d'écoles qui se sont séparées de la République et d'avoir fermé aussi des associations qui, sous couvert de sport, font du prosélytisme qui est contraire aux valeurs de la République. Donc nous agissons. C'est la même chose pour, la sécurité. Nous entendons beaucoup de gens qui, tout d'un coup, redécouvrent que c'est un sujet extrêmement important, etc. Nous n'avons pas attendu qu'ils le redécouvrent. Nous avons redéployé 10 000 policiers et gendarmes sur le terrain. Enfin, pardonnez-moi, moi, il y a 20 ans, je travaillais sur la police de sécurité, la police de proximité, la justice de proximité. Qui a démantelé cette police et cette justice de proximité? Ce sont les deux mandatures précédentes. Donc,
mais là, vous êtes interrogé sur vos résultats. Ce sont en matière de séparatisme ou de sécurité. Vous êtes interrogé sur vos résultats. Et si tout ce que vous avez fait depuis 3 ans suffit, dans ce cas-là, on peut retourner le problème.
Je crois qu'on ne remet pas en 3 ans, et le président de la République l'a clairement dit, on ne remet pas en 3 ans sur pied un pays où il y a eu 20 ans de démission sur un certain nombre de sujets. Et je peux continuer sur l'école, sur les services publics, sur la santé. Et nous prenons en main, en 2017, une situation telle qu'elle est, et nous nous battons depuis 3 ans pour la changer. Et notre bilan, je le redis, il est loin d'être indécent. Il est loin d'être indécent en matière économique, mais il est loin d'être indécent en matière sociale. Parce que lorsque vous recréez de l'emploi, c'est la première façon de lutter contre la pauvreté. On a un peu tendance à l'oublier dans ce pays.
Mais vous diriez aussi que le bilan est positif en matière de sécurité ?
Écoutez, je crois que de remettre de la police de proximité sur les territoires, oui, c'est positif. C'est même très important. Simplement, la confiance dans la police de proximité, elle ne se construit pas du jour au lendemain. Parce que la police de proximité, c'est la personne qui connaît les résidents, qui connaît les habitants, qui sait passer un petit message au grand frère ou à la maman pour lui dire « Dis donc, ça serait bien que tu vérifies que ton enfant fasse attention, tu sais, on l'a un peu à l'œil », qui est à cette qualité de relationnel qui fait que ça change tout.
Et vous voyez aussi
cette confiance, elle ne se construit pas du jour au lendemain.
Vous voyez aussi
et la justice de proximité, c'est le pendant de la police de proximité. Il faut pouvoir, j'en parle avec émotion parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Lorsque la droite parle de ces sujets, elle parle de peine plancher, elle parle de durcir les peines, mais ce n'est pas le sujet. Pardon, mais ce n'est pas le sujet. Regardez comment font les autres pays, notamment
le sujet,
les pays scandinaves sur ces sujets-là.
C'est de savoir
c'est la rapidité qui est importante.
Un ensauvagement de la société. Est-ce que vous partagez ce constat du ministre de l'Intérieur ?
Alors, je crois qu'il faut d'abord toujours regarder le temps long. Vous avez des violences qui étaient considérées comme pas dire parfaitement normales, mais qui n'étaient pas dénoncées. Les violences conjugales, les violences sexistes, qui aujourd'hui deviennent beaucoup plus insupportables. Et je pense que là, nous avons évolué. Je salue d'ailleurs Céline Calvez, qui est députée et qui est très engagée sur ces sujets-là.
Donc ça, ça va dans le bon sens.
Donc ça, ça va dans le bon sens. Et peut-être on peut dire, il y a de l'ensauvagement. Non, on met juste le projecteur sur des violences qui existaient et qui sont aujourd'hui insupportables. Et il y a un autre phénomène qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'effectivement, il y a un rapport à l'autorité qui a évolué. Et là, on est plutôt dans une mauvaise direction, puisque la figure, par exemple, du pompier, du policier, du professeur, était extrêmement respectée il y a 40 ans. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Et c'est un sujet sur lequel nous devons avancer.
Vous ne parlez pas, en tous les cas, d'ensauvagement. C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Agnès Pannier-Runacher, pour ou contre votre candidature aux prochaines régionales en Île-de-France ?
Pour, c'est une très belle élection. Il faut qu'on se batte, il faut qu'on y aille. Et j'ai des élus récents de La République En Marche au municipal et je peux vous dire qu'ils sont sur les starting blocks pour partir.
Vous serez tête de liste ?
De savoir si c'est Pierre, Paul ou Jeannette qui va être tête de liste, c'est pas la priorité.
Si
la priorité,
non,
c'est quelle stratégie
si
et quelle vision.
Si on vous propose, Agnès Pannier-Runacher, vous acceptez ou pas ?
On en reparlera, j'ai quelques conditions sans doute, mais je ne cache pas que ça m'intéresse.
D'être éventuellement tête de liste, ok. Est-ce que vous êtes pour ou contre des listes La République En Marche dans toutes les régions de France ?
Pour, je crois qu'on a un projet qui doit être montré et qu'on porte des valeurs et une vision différente de celles qui sont portées par les Républicains d'un côté et par, on va dire, les forces de gauche de l'autre.
Un ministre battu devra-t-il quitter le gouvernement, pour ou contre ?
Je ne crois pas parce que, justement, nous allons au combat et nous construisons le parti à l'envers, c'est-à-dire on est parti par la fonction la plus suprême, la présidence de la République. Aujourd'hui, il faut ancrer dans les pays, dans les territoires, et il ne faut pas avoir peur d'aller au combat, y compris si on est minoritaire, parce qu'avec la proportionnelle et avec les voix que nous rentrons, nous mettons des élus sur les territoires.
Et vous voulez une désignation du candidat au régional très rapidement ?
Pour gagner une élection, vaut mieux quand même partir pas trop tard.
D'ici la fin de l'année ?
J'espère avant.
D'ici la fin du mois d'octobre ?
J'espère avant.
D'ici la fin du mois d'octobre ?
D'ici la fin du mois d'octobre.
Parfait, c'est dit. Dernière question pour ou contre ?
Après, c'est mon avis, il n'engage pas le gouvernement.
C'est très bien, vous le dites clairement. Pour ou contre le report temporaire de la réforme des allocations chômage jusqu'à la fin du quinquennat ?
Alors ça, j'ai tendance à penser que ça dépend de la manière dont on rebondit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette réforme n'est pas adaptée à la saignée auquel nous faisons face. En revanche, c'est une réforme essentielle.
Donc il faut la faire
justement recréer l'emploi.
Il faut la faire au 1er janvier, tout de même.
Peut-être, oui, c'est peut-être un peu court. On verra où on en est en fonction de la situation de l'emploi dans quelques semaines.
Peut-être. Alors, question nette.
Le grand jury. Question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Alors Xavier Bertrand propose, il y a quelques instants, de faire des baisses de TVA ciblées et temporaires, je le cite. Donc par exemple, pourquoi pas pendant 9 mois, baisser la TVA sur les travaux à domicile pour relancer l'emploi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ?
Rapidement, Madame la Ministre, parce qu'on a d'autres questions.
Alors rapidement, il y a d'abord des travaux qui sont à 5,5. Hein, ça, je le redis dans ceux que vous mentionnez. Donc c'est pas une idée tellement nouvelle. Et c'est partiellement fait.
Dans le bâtiment, d'accord.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est important de le dire quand même. C'est pas comme si on n'y avait pas pensé. La deuxième chose, c'est que la baisse de la TVA de manière générale, c'est pas ce qui est le plus adapté en France, puisque nous avons des mesures de soutien de la consommation qui sont très importantes par ailleurs. Et nous avons plutôt le registre de la TVA le plus bas sur plein de sujets,
donc,
qui est différent
non,
de l'Allemagne avec lequel on nous compare.
Autre question,
souvent.
Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors dans l'actualité cette semaine, des collégiennes et des lycéennes ont lancé un mouvement vraiment très repris sur les réseaux sociaux pour pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent. Et elles dénoncent les règlements intérieurs dans les établissements scolaires qu'elles jugent sexistes. Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a réagi. Pour lui, bah, il suffit tout simplement de s'habiller normalement, sans que l'on sache vraiment ce que ça veut dire s'habiller normalement. Et Emmanuel Macron, lui, en appelle au bon sens. Là aussi, pas plus de détails sur ce que veut dire le bon sens. Donc est-ce que vous pensez que les jeunes filles doivent faire plus attention à leur tenue que les garçons ?
Alors, je ne pense pas que les jeunes filles doivent faire plus attention que les garçons. Je pense que les deux doivent faire attention. Et moi, je suis plutôt pour une tenue correcte, précisément pour cette idée que lorsqu'on est à l'école, on est dans une institution particulière, on n'est pas avec ses copains. Ma fille, qui a 18 ans et avec qui j'ai eu cette discussion et qui portait un charmant top crop dos nu, n'était pas du tout d'accord. Continuons le débat.
Ce sera le mot de la fin. Merci Agnès Pannier-Runacher. C'était votre grand jury, votre premier grand jury. Merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.